enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Éternel mon Dieu, je veux te rendre grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié. Je crois que personne ne quittera cet endroit étant la même personne. Je crois au Dieu que quelque chose d'unique, d'exceptionnel, d'inexplicable, par l'entendement humain, va se produire ici, Seigneur. Parce que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Seigneur, la raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas dormir aujourd'hui et d'être ici, c'est parce que je crois que tu es un Dieu fidèle. La raison pour laquelle ce peuple a été convoqué, c'est parce que je crois, Éternel des armées, que tu vas veiller sur ta parole. Et que tu vas rencontrer chacun au niveau de son attente. Seigneur, c'est parce que je crois que tu es un Dieu plein d'amour. Celui qui répond aux prières de son peuple. Celui qui exauce son église. Quand l'église se tourne vers lui. Que ton nom soit glorifié. Je demande exceptionnellement pour chaque personne ici. Un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Illumine les yeux de chaque cœur. Illumine les yeux de chaque cœur. Je déclare que cette parole éternelle va se déposer dans l'homme intérieur et créer un bouleversement radical. Que les forteresses dans les pensées soient ébranlées. Au nom puissant de Jésus. Que les pièges de Satan soient déjoués. Et que les décrets de l'enfer soient annulés au nom puissant de Jésus, afin que ne s'accomplisse éternel dans la vie de toute personne qui écoute ce message, que ce que le conseil de Dieu et la main de Dieu ont arrêté à l'avance. Béni sois-tu, car nous croyons que Dieu est au-dessus de tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je mets une demande devant le trône de Dieu. Donne-moi la capacité et une onction particulière d'enseigner et de prêcher ta parole. Merci, parce que je sais que tu es extrêmement fidèle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que chacun dise Amen. Amen. Alléluia. All right. Je t'ai en train de prier et de parler à Dieu depuis hier nuit, je demandais au Seigneur, s'il te plaît, je voudrais avec exactitude apporter à ton peuple le message que toi-même tu aurais apporté si tu étais là. Et extraordinairement aux environs de 16 heures, tandis que j'étais en train de parler au Seigneur, j'ai entendu distinctement la voix du Seigneur déposer le message que je vais prêcher ce soir. Or, j'ai sauté dans ma chambre, j'ai commencé à danser. J'étais tout heureux parce que ce message a commencé à produire en moi quelque chose de grand. Ce soir, je vais parler, ou alors ce matin, du témoignage du ciel. Le témoignage du ciel. Genèse 1. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais je te pose une question. Avant le commencement, il y avait quoi? Avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Et mais la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, quand Dieu a créé les cieux au commencement, qui a obligé Dieu à le faire? Personne. Il a créé les cieux de son propre gré. Et ensuite, il aurait pu s'arrêter au ciel. Il aurait pu dire, c'est suffisant pour moi d'avoir les cieux. Ok? Mais il est allé plus loin. Il a créé la terre. Mais qui a forcé Dieu à créer la terre? Personne. Est-ce que Dieu a été sous une contrainte quelconque? Est-ce qu'il a été sous une influence quelconque? Non. Est-ce qu'il a été manipulé par une autre puissance? Non. Mais il a créé les cieux et il a créé la terre. Mais ma Bible dit que quand Dieu a créé les cieux et la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et nous observons comment est-ce que Dieu se met à créer l'univers entier. Il met en marche toutes choses, respectant les lois que lui-même il a établies afin que le monde subsiste dans une certaine harmonie. Et Dieu ne s'arrête pas là. Quand il regarde tout ce qu'il a fait, il juge utile sur la terre de faire sortir de la terre et de déposer sur la terre un être qui devra prendre le contrôle de tout ce qu'il a fait sur la terre. Et là, Dieu fait face à un problème énorme. Pourquoi? Parce que Dieu avait la possibilité de donner le contrôle de la terre au lion. Il pouvait le donner à la girafe, il pouvait le donner à la tortue, il pouvait le donner à une autre créature. Mais Dieu décide de donner le contrôle de la terre à l'homme. À partir du moment où Dieu choisit l'homme comme étant la créature qui devra dominer sur la terre, Dieu apporte par son choix le témoignage du ciel à l'égard de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Et vous voyez, Dieu ne t'a pas créé parce que tu as parlé avec Dieu. Non. Dieu ne t'a pas créé parce que tu as prié. Non. Tu n'as même pas jeûné. Déjà même que tu ne savais même pas que tu allais naître. Mais il a jugé utile de faire de toi la créature qui déposa sur la terre afin que tu domines. Mais il y a une chose que nous n'avons pas souvent compris quand on lit la Bible. Parce que la Bible n'est pas très explicite là-dessus. Hein, c'est la révélation qui nous conduit à la compréhension de ce mystère. Parce que quand Dieu finit de créer l'homme, la Bible dit dans Genèse 1, verset 26, que Dieu va bénir l'homme. Mais quand on lit, on voit, Dieu bénit l'homme, Dieu lui dit, sois fécond, multiplie, assujettis, domine. Mais non, ce n'était pas aussi rapide que ça. Qu'est-ce qui se passe? Dieu crée l'homme et Dieu manifeste l'homme sur la terre. Mais en créant l'homme, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. En quelque sorte, quand l'homme est manifesté sur la terre, Dieu a la capacité de se voir en physique. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Dieu a la capacité de se voir lui-même sous une forme physique. Parce qu'il fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et quand il prend la terre, il forme l'homme, il souffle, l'homme devient une âme vivante. Et quand l'homme commence à bouger, la première réaction de Dieu, c'est qu'il prend l'homme entre ses mains, il le regarde et lui-même il crie, waouh, c'est extraordinaire ce que j'ai fait, c'était fantastique, c'était merveilleux. Et tellement il est extasié par ce qu'il a fait, qui n'a même pas le temps de dire bonjour à l'homme. Il dit, je t'ai béni. Il ne parle même pas de malédiction parce que ça ne passe même pas un seul instant dans sa tête. Je te bénis. Multiplie, assujettis, remplis et domine. Et vous savez, le jour où Dieu décide de bénir l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer toutes les créatures de la terre. Le lion, la lionne, la girafe, la tortue, le chimpanzé, le serpent, il va les convoquer. Et ce jour, il n'oublie pas de convoquer Lucifer et tous ses démons. Et il dit, sur la terre, j'ai suscité maintenant une créature à laquelle vous devrez tous vous soumettre. Je vous apporte mon témoignage. Dieu, le ciel apporte la caution sur l'homme. Ça, c'est votre roi. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, Dieu, n'est-ce pas, bénit l'homme devant tout l'univers. Il apporte le témoignage. Et si l'histoire s'arrêtait là, ça aurait été extrêmement fabuleux et fantastique. Mais il y a quelque chose d'autre. Après avoir béni l'homme, Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour que l'homme puisse cultiver le jardin et que l'homme puisse le garder. Vous savez, bien que la bénédiction de l'Éternel soit sur nous, il y a toujours les instructions que Dieu nous donne pour pouvoir, un, maintenir la bénédiction, deux, l'accroître. Et donc, il dit, je te mets dans le jardin d'Éden afin que tu le cultives et afin que tu le gardes. Mais il va plus loin. Il dit à l'homme, écoute homme, tu pourras manger de l'arbre, fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas, la connaissance de tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que si tu manges ce fruit, tu mourras. Et la Bible dit, le serpent était un des animaux, était l'animal le plus rusé d'entre les animaux des champs. Il vint vers la femme et il dit à la femme, est-ce que Dieu a véritablement dit que vous ne devez pas manger de ce fruit? La femme dit non. Hey, Dieu est allé plus loin. Il a dit, il ne faut même pas toucher. Parce que le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Dieu dit, hey, laisse tomber, Dieu vous a blagué. La femme dit, quoi? Oui, j'ai dit, Dieu vous a blagué. Elle dit, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le serpent dit, non, tu sais, Dieu a envie de vous cacher certaines choses. Il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Et la Bible dit que la femme prend de ce fruit, elle mange. J'abrège. Et par la suite, quand elle mange le fruit, elle prend, elle donne à son mari qui en mange. Et voilà que palabre s'établit entre Dieu et l'homme. Problème. Parce que quand l'Esprit de l'Éternel parcourt le jardin le soir, Dieu demande à l'homme, Adam, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Et l'homme demande à Dieu, demande à l'homme, mais qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre que j'ai défendu de manger? Et donc, l'homme dit, non, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors qu'en fait, Dieu n'a pas donné la femme. Dieu a simplement mis la femme à côté et l'homme a choisi. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Parce que vous voyez, le véritable problème qu'on a aussi souvent, vous comprenez? Et savez, le témoignage du ciel ne veut pas dire que Dieu va prendre ta femme pour te donner. Il a mis à côté, mais toi tu choisis. Dieu est assez intelligent. Il sait que s'il te donne une femme, ce sera trop facile pour toi un jour de dire, écoute Dieu, je n'ai pas choisi, c'est toi qui me l'as donné. Donc, si Dieu lui-même ne te donne pas une femme, fais attention si c'est le pasteur qui te donne une femme. Ok? Est-ce que vous me comprenez? Donc, je continue. Alors, la femme, n'est-ce pas, dit c'est le serpent. Et Dieu va faire quelque chose. Il va appeler le serpent face à ses responsabilités. Et il va demander au serpent, hey, « Hé, serpent, qu'est-ce que tu as fait ?» Alors, il va punir le serpent. Mais quand il va punir le serpent, dans Genèse 3, verset 15, il va dire quelque chose. Nous le lisons souvent et nous passons rapidement. Mais regardez ce qu'il va dire. Il dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa sémence et ta sémence. Elle te crasera la tête et tu lui mordras le talon. » Maintenant, je m'arrête là. Dites-moi, en quel moment vous avez vu une femme qui a une sémence? Il dit, je mettrai inimitié entre, entre sa sémence et ta sémence. Vous voyez, il y a quelque chose de fort que Dieu est en train de faire. Il dit à la femme, il dit à l'homme, au serpent, la sémence de la femme écrasera ta tête. Mais à bien y regarder, Dieu aurait pu dire au serpent, écoute-moi bien, la sémence de l'homme,
le mari de la femme écrasera ta tête. Mais il n'a pas dit ça. Il dit directement au serpent, la sémence de la femme écrasera ta tête. Pourquoi? Parce que suis-moi bien, c'est normal que dans ta marche avec Dieu, tu connaisses des problèmes dans un domaine précis. Mais laisse-moi te dire que face à l'adversité, à cause du témoignage que le ciel a sur ta vie, Dieu ne va pas prendre une autre chance pour régler le problème là où tu as un problème. Je continuerai pas. Si tu as un problème dans ta tête et qu'on veut t'enlever un œil, Dieu n'a pas besoin de dire, ok, puisqu'on va t'arracher un œil, je vais améliorer ton doigt. Non, il va te dire, de ce propre œil là où tu as un problème, moi je vais le restaurer. En fait, il va toujours utiliser l'endroit où le diable passe pour dire à Satan, moi je prendrai cet endroit et je vais manifester ma gloire et cet endroit va dominer, cet endroit sera plus glorieux qu'avant. Si on décide d'enlever ton sein gauche parce qu'il y a un cancer, Dieu ne dira pas, ok, il va dire à Satan, écoute-moi bien, ce sein-là que tu as envie de ruiner, moi je te déclare que ce sein va briller comme il n'a jamais brillé avant et tu verras ma gloire là-dessus. Et quand tu regarderas, tu sauras que je suis l'éternel Dieu. Même le fait que nos affaires sont attaquées, nos maisons sont attaquées, nos mariages sont attaqués, c'est simplement parce que Dieu veut utiliser ce qui a attaqué pour montrer à Satan combien de fois il est faible. Et vous savez que l'homme n'aurait jamais connu la véritable puissance de Dieu, ou alors n'aurait jamais connu le véritable amour de Dieu si l'homme n'avait pas péché. Écoutez-moi bien, Dieu aimait l'homme, n'est-ce pas? Mais l'homme ne pouvait pas en être conscient si l'homme n'était pas arrivé dans une position telle que l'homme avait perdu tout ce qu'il avait. Vous savez, l'homme a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu ses avoirs. Mais quand Dieu est venu, et quand il est venu parler au serpent, Dieu n'a pas enlevé le témoignage qu'il avait à l'égard de l'homme. En quelque sorte, quand il a parlé à Satan, au serpent, il a dit au serpent, « Moi, Dieu, je mettrai inimitié entre ta sémence et sa sémence. » En quelque sorte, Satan, c'est vrai que maintenant, tu as arraché l'autorité entre les mains de l'homme. Mais je veux te dire que je témoigne, moi, Dieu, et le ciel avec, que nous restons avec l'homme, malgré sa difficulté, malgré sa rébellion, nous restons dans son camp. Et nous allons continuer avec l'homme pour le ramener de la situation de défaite, de la situation d'échec, pour le repositionner dans la gloire, afin que tu saches que quand je choisis, je ne renonce pas, je ne me démets pas. Quand je bénis, c'est éternel. Quand j'annonce, oh my, come on. Yes, Lord. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, vous savez, souvent, il est nécessaire que tu traverses certaines situations avec Dieu pour mieux le connaître, pour mieux le comprendre. Il est souvent nécessaire que tu passes dans le feu pour comprendre que le feu est feu, mais ne brûle pas n'importe qui. Il est souvent nécessaire que les eaux t'envahissent et que tu comprennes que même au milieu des eaux, Dieu est capable de te donner de ne pas périr. Parce que s'il n'y avait pas eu ce problème, l'homme n'aurait jamais connu ce que c'est l'amour de Dieu. Et après, la Bible dit, il va tuer un animal. Il va couvrir la nudité. En quelque sorte, il va dire, je choisis, malgré ta faute, de te dire que je ne m'arrête pas là. Mon amour pour toi est si grand que ce n'est pas une faute comme celle-là qui va l'arrêter. En fait, je cherchais une opportunité pour te montrer ce que je pense pour toi. Maintenant, tu me l'as donné. Tu m'as donné la chance, le couloir par lequel je passe pour te montrer la grandeur de mon amour. Maintenant, tu connaîtras le témoignage du ciel. Maintenant, oh my God. Maintenant, tu sauras ce que je pense véritablement. J'ai parlé, tu as entendu, mais maintenant, je ne vais plus simplement parler. Je vais te prouver ce que j'ai dit. Ma parole ne va pas rester simplement en l'air. Tu m'as donné la possibilité d'amener ma parole à devenir chair. J'ai parlé. Maintenant, tu vas voir. Homme, je vais te tuer avec mon amour. Je vais te saturer. Tu vas coucher dans le lit. Tu vas, le soupe sera coupé. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi Dieu m'aime tant? Parce qu'il est Dieu. Vous voyez, quand nous sommes hommes, comme nous, nous cherchons la faute de notre frère pour l'abattre. Et plus loin, souvent même quand il n'y a pas de faute, on fabrique la faute pour le liquider. Est-ce que vous me comprenez? Souvent on fabrique même la faute. Oh, il a fait ci, oh, il a fait ça, mais en fait, on cherche une excuse pour accuser de façon, je veux dire, libre et méchante quelqu'un qui est aimé par Dieu. Donc, l'homme en péchant a donné à Dieu la plus grosse opportunité que Dieu n'avait pas, celle de lui prouver son amour. Si tu marches avec quelqu'un, et le jour où tu commets une faute, cette personne n'est pas à même de se tenir avec toi, lâche-la. Ce n'est pas un ami. Parce qu'un ami te prouve son amitié le jour de la détresse. Quand les choses vont mal, c'est le jour qui te montre qu'il est un ami. Écoute-moi bien. Tu aimes ta femme parce qu'elle est femme ou ton mari parce qu'il est mari. Si un jour il commet une erreur et que tu commences à taper les tambours et à sonner les cordes, hey, il a commis une erreur, hey, il a fait ci, je te dis, tu es simplement en train de montrer que tu n'étais qu'une intéressée ou un intéressé. Parce qu'en fait, quand tu aimes, tu cherches l'opportunité de prouver. Et ton amour se prouve quand l'offense se manifeste. C'est là que tu témoignes. C'est là que tu prouves. Vous savez, tu marches avec un ami, il a un problème avec quelqu'un. Quand tu arrives, tu prends directement position pour lui. Le problème se résout de l'autre côté. Et puis maintenant, entre vous deux, vous parlez. C'est ça, un ami. Et Dieu est venu devant le diable. Il a dit, Satan, je me tiens pour l'homme. Et Satan a dit, mais ce n'est pas possible, Dieu. Moi-même, j'ai connu le même problème. À la montagne de Sion, j'ai péché contre toi. Tu m'as chassé. Tu ne m'as pas donné la possibilité de me repentir. Dieu dit, ce n'est pas la même chose. Moi, le ciel a fait entendre par ma bouche le témoignage de mon amour pour lui. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, laissez-moi vous dire, mon frère, quand vous aimez véritablement, alors la faute est une opportunité pour prouver que vous aimez. Vous savez, nous sommes aujourd'hui, j'entends des gens dire, hey, et non, je vais la chasser, elle n'habitera plus chez moi, c'est pas possible, elle a fait ci, elle a fait ça. Je m'arrête, j'ai dit, mon Dieu, à l'église, souvent, même on est une vente, non, c'est une sorcière, c'est un sorcier, parce qu'on est fatigué d'être avec la personne. Ça n'a jamais été l'amour. Parce que quand la braise de l'amour consume le cœur de quelqu'un, alors cette braise est activée par la faute et l'offense de la personne d'en face. En quelque sorte, l'offense de l'homme a fait naître dans sa chair ce que l'appelle l'imperfection de la chair, qui donne à Dieu, de façon éternelle jusqu'à l'avènement, des opportunités sans fin. Oh my God, come on, sans fin. C'est-à-dire que Dieu aura sans fin une opportunité de te montrer qu'il t'aime. C'est pour ça que le péché est enraciné même dans ta chair. Et le processus du renouvellement de l'intelligence te donne de pouvoir redevenir parfait. Mais Dieu sait que malgré ce processus, il y aura quelque chose que tu vas louper. Et il sera toujours là pour te dire, je t'aime. Alléluia. Amen. Il sera là pour te dire, je t'aime. Je crois pour ma part qu'en ce qui concerne certaines choses qu'on prêche, vous savez, dites-moi, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous parlons du témoignage du ciel. Tu vis avec ta femme et tu trouves ta femme en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible a dit, tu la répudies, ça. Et ça, c'est exactement la mentalité de ceux qui ne connaissent pas l'amour. Parce que l'amour pardonne tout. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi, je veux un peu qu'on comprenne ce que c'est le témoignage du ciel. L'amour pardonne tout. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit, le problème que tu as, qui peut te déconnecter avec Dieu, c'est le mensonge. Mais l'autre, c'est le commérage. Mais l'autre, c'est peut-être le sexe. Mais l'autre, c'est telle autre chose. Pourquoi est-ce que tu prends plaisir à magnifier ce que l'autre a fait et à minimiser ce que tu fais? Tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'as pas l'amour en toi. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Et non, elle m'a trompé, il m'a trompé, je divorce. Et puis on dit oui, c'est ce que la Bible dit. Mais quand Jésus a cité ce passage, il faisait référence à une quotation de l'Ancien Testament. Et il était en transition entre l'Ancien et le Nouveau. Parce qu'en ce moment, il était en train de remplir le protocole de ratification des accords. Afin que soit changé ce que la loi des hommes avait écrit. C'est pour ça qu'il dit, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Parce que le ciel, dans son témoignage d'amour, devait changer les documents, parce que ce n'était pas parfait. Je t'aime, je t'ai dit je t'aimais, devant tout l'univers, même devant le caillou, même devant l'or, même devant le diamant, même devant le cacao, même devant le lion, même devant le diable, même devant les démons, j'ai dit je t'aime. Seigneur, je t'aime et je t'ai établi maître, qu'il le veuille ou non, c'est mon choix, je ne change pas. Vous savez, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Nous devons apprendre à annoncer aux gens ce que la Bible dit et non ce qu'on pense. Vous savez, souvent il y a des gens quand ils jeûnent, ils voient d'autres personnes qui mangent, ils sont mal à l'aise. Et ils ont envie de demander au feu de Dieu de descendre sur eux. Est-ce que vous me comprenez? Ah, je vous dis la vérité. Oui, mais pourquoi? Des gens à qui Dieu dit non. Toi, consacre-toi. Ne regarde pas la télé. Tiens-toi de cette façon. Ils sont tellement énervés que quand ils sortent de là, ils disent, vous tous là, à partir d'aujourd'hui, ne regardez plus la télé. Ne faites plus ci. Non, c'est à toi que Dieu a parlé, mon frère. Ok? Si tu vas aller sur ce chemin, tu y vas seul. N'amène pas les autres dans la voie que Dieu a tracée pour toi. Et nous sommes dans une génération où les gens se mettent à faire n'importe quoi. Où est le pouvoir de l'amour? Où est l'amour dans le cœur d'un homme? Pourquoi tu as pris cette femme de son père? Ou pourquoi tu es allé devant le maire si c'est juste une faute? Qui va dire je ne suis plus avec lui? Quel était ton motif? Quel était ce que tu recherchais? Ton cœur bat pourquoi? Qu'est-ce qui le motive? À quel rythme il bat? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Et puis j'ai entendu un homme de Dieu dire non, elle doit partir parce qu'elle était sorcière. J'ai dit non.
elle doit rester parce que Dieu te donne l'opportunité de montrer que celui qui est en toi est plus. Alléluia. Si ta femme est sorcière et tu es homme de Dieu, tu la chasses, qu'est-ce que le monde va faire? Attends, Dieu te donne l'opportunité de commencer ton ministère dans ta maison et tu la chasses et tu es à l'église. Pourquoi? C'est que tu n'es pas à l'église pour Dieu. Tu es à l'église pour ta poche, tu es à l'église pour ton ventre, tu es à l'église pour tes intérêts. Mais si tu es à l'église pour Dieu, il y a des choses que tu ne fais pas. Vous savez, est-ce que vous me comprenez? Donc je continue mon message. Vous voyez, Dieu va toujours utiliser la partie que le diable a touchée pour montrer au diable qu'il est Dieu. Si le diable a touché tes finances, Dieu va toucher tes finances. Si le diable a touché tes trompes, Dieu ce soir va retoucher tes trompes. Si le diable a touché ton travail, Dieu va retoucher ton travail. Si le diable a touché ton mariage, Dieu va retoucher ton mariage. Quel que soit l'endroit que le diable a touché, c'est là où Dieu retouche. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Le même endroit. Il dit à Satan, c'est vrai, hein? La femme était seule. Tu as blagué la femme. Mais je vais te dire, que la même femme, sa sémence à elle, écrasera ta tête. Sa sémence va écraser ta tête. Maintenant, je continue. Vous voyez, Dieu avait choisi son camp. Même à la chute, Dieu a dit à l'homme, tu as mon témoignage. Je t'aime toujours. Je marche de ton côté. Mais tu as enfreint mes lois. Et pour que la marche redevienne ce qu'elle était, je dois d'abord te prouver ce que je suis. Parce que tu ne me connais pas bien, il faut que tu me connaisses maintenant. J'ai parlé avec toi, je t'ai béni, mais tu ne m'as pas encore bien connu. Maintenant, laisse-moi faire quelque chose. Quand je vais terminer mon action, alors tu sauras que je suis l'Éternel. Tu sauras que je pense quelque chose avant de la faire et que rien ne me surprend. Que même quand l'épreuve arrive, elle arrive parce que la solution a toujours précédé l'épreuve. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas le jour où tu es dans le besoin que Dieu fabrique la provision. En fait, le besoin se manifeste parce que la provision est là et elle attend. Et le besoin arrive pour attirer ton attention, pour dire la provision est là depuis. Qu'est-ce que tu fais? Et quand le besoin vient, c'est pour te dire, c'est juste à côté. Vous savez, si un jour tu as envie de te marier, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mari, c'est parce que ton mari est là. Vous n'êtes pas surpris de vous rendre compte qu'il y a même des gens qui détestent la richesse. Il y a des gens qui aiment la pauvreté. Vous ne savez pas, ça existe. Chaque fois que le besoin commence à être brûlant dans ton cœur, Dieu attire ton attention de l'existence du contraire de ce besoin. C'est-à-dire, quand tu arrives, la Bible dit, Dieu pourvoira à quoi à tes, il pourvoira à quoi à tes besoins. Maintenant dis-moi, si tu n'as pas de besoin, comment est-ce que Dieu pourvoit? Hein? Mais laisse-moi te dire, Dieu ne pourvoit pas, il ne répond pas simplement à tes prières. Mais la provision de Dieu va à ton besoin. C'est-à-dire quoi? Tu désires quelque chose au point où, dans ton âme, tant que la chose n'est pas arrivée, il y a quelque chose qui est vide. Donc, s'il n'y a pas ce vide qui est créé par le besoin, la provision n'est pas attirée. Donc, il faut que le besoin crée un vide en toi. Au point où, quand tu te balades, tu sens le désir d'avoir cette chose. Tu es tellement désireux de cette chose que maintenant, ce vide crée une forme d'aimant vers la provision et la tire. Et la provision arrive, paf, dans le vide. Et c'est là que le besoin se manifeste. Et
Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux doctrines des démons. Quand on vous enseigne, non, voilà, rendez grâce à Dieu dans la pauvreté, parce que Dieu aime les pauvres. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Oh, je suis le Dieu qui bénit le pauvre et qui se soucie de la veuve. Et ouais, tu commences à dire, ouais, ok, dans tous les cas, je suis malade, gloire à Dieu. Pauvre, gloire à Dieu. Et si, en tout cas, tout ce qui m'arrive, oh, c'est Dieu qui l'a voulu. Et qu'est-ce que ça fait? Il n'y a donc plus de besoin en toi. Et aussi longtemps qu'il n'y a plus de besoin, tu es loin de la provision. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai, afin que votre joie soit parfaite. En quelque sorte, quand le besoin existe, la joie n'est pas dans son comble. C'est quand le besoin est pourvu que la joie arrive à son sommet et que la coupe commence à déborder et ta joie est parfaite. Vous voyez, Dieu dit à l'homme, domine. Mais quand il dit domine, il est conscient de quelque chose. Ah, j'aime l'intelligence de Dieu. Il sait que le diable existe. Vrai ou faux? Il sait que le diable existe. Il a eu un problème avec Satan. Et en plus, il sait exactement comment la puissance de Satan agit. Donc, il n'est pas surpris par ça, en fait. Et il dit, ok, domine. Comment est-ce que Dieu, quand il dit domine, à aucun moment, il ne juge utile de citer le nom du diable. Regardez bien, quand il parle à l'homme, il n'a pas besoin de dire, Satan viendra, les démons feront ci. Voilà ce qu'il dit, simplement domine sur les poissons, les oiseaux et tout. Il montre à l'homme simplement par où le diable peut essayer de passer. Donc, le problème, il dit, je suis conscient de sa puissance. Je reconnais que le diable a une puissance. Mais je n'accorde pas une grande importance à la puissance de Satan. Parce que je t'ai donné une puissance qui est au-dessus de celle que le diable peut avoir. Et à n'importe quel moment, quand tu verras la puissance de Satan en action, domine. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire quoi? Qu'il y aura une forme de résistance. Mais j'ai dit domine. C'est-à-dire qu'il faut utiliser ta force et repousser, assujettir, contrôler le diable sous tes pieds. C'est le mandat que je t'accorde. Pourquoi maintenant, tous les jours, on va dans les séminaires, les 15 démons qui font chuter ton mariage, les 21 démons qui ont asphyxié ta pauvreté, et tu passes ton temps à aller chercher les démons. Et il y a des ministères qui sont spécialisés dans la recherche des démons. Et j'ai constaté ceci, suivez-moi bien. Tu as l'odeur de ce que tu côtoies. Si quelqu'un passe son temps à côtoyer les démons, il sent les démons. Si quelqu'un reste avec le poisson, il dégage l'odeur du poisson. Quelqu'un reste avec la viande, il sent l'odeur de la viande. Quelqu'un avec le charbon, il sent l'odeur du charbon. Et quelqu'un qui reste avec Dieu sent l'odeur de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et ce qui arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qu'on constate, oh tel a fait ci, oh tel a fait ça, laissez-moi vous dire une chose. Je n'accorde pas de crédit à ce qui vient de l'enfer. Je n'accorde pas de crédit. Même si c'était vrai, je n'accorde pas de crédit à ce qui vient de l'enfer. Personnellement, c'est un choix. La Bible n'a jamais dit, ceux du peuple qui connaîtront les démons agiront avec fermeté. Non, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits, agiront avec fermeté. Moi, je veux faire des exploits dans ma génération. Je veux bouleverser ma nation. Je veux changer de continent. Je veux voir la gloire de Dieu. Je reste avec le Seigneur. Écoutez-moi bien. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Et je ne comprends pas. Suivez-moi bien. Je vous dis quelque chose. Je demande à Dieu, mais pourquoi les gens pensent que le diable est plus fort? Dimanche matin, je serai ici. Je ne mourrai pas avant. Si le diable était plus fort, je meurs avant. Écoutez-moi bien. Il y a quelque chose qui m'étonne. Même à l'église, Quand on voit quelqu'un béni, oh, c'est Satan. Oh, mais vous connaissez le Dieu que vous servez? Et il y a un problème, j'ai un problème avec ça. L'Église, est-ce que vous connaissez votre Dieu? Ce qu'il est capable de faire. Si quelqu'un va chez Satan et porte la puissance de Satan, il ne sera jamais à la dimension que j'ai. Je dis jamais. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Quand quelque chose est de Dieu, ça subsiste le temps. Ça passe dans la vallée, ça monte sur les montagnes, ça passe dans l'eau, ça passe dans le feu, mais ça reste stable. Et ça continue de croître. Et ça continue de croître. On attaque, ça grandit. On attaque, ça grandit. On attaque, ça grandit. Parce que ce qui est né de Dieu ne meurt pas. Ça ne meurt pas. On a des serviteurs de Dieu éphémères. Ils prennent des messages qu'ils ont écoutés dans les CD des autres. Ils n'ont aucune révélation. Ils sont devenus serviteurs de Dieu simplement parce qu'ils ont besoin d'argent. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez, vous savez, laissez faire. Mais en certains moments, le carburant va finir. Il n'y a plus de ressources. Mais ceux qui sont de Dieu renouvellent leur force chaque matin. Ils prennent de l'envol comme de l'aigle. Alléluia, comme de l'aigle. C'est pour ça que je n'ai pas peur de dire, quand tu reviendras ici 5 ans plus tard, je ne serai plus là. Eh hey, mais c'est pas vrai. Où est-ce qu'il est? Dans une autre cathédrale. C'est pas possible. Je ne pourrai plus être là 5 ans plus tard. Parce que Dieu m'amène ailleurs. Est-ce que tu comprends? Quand tu vas arriver, ce sera autre chose. Pour garer ta voiture, tu seras obligé de faire le tour dans le souterrain en bas pour chercher ta place. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu nous amène quelque part. Celui qui est de Dieu va quelque part. Je t'annonce, tu vas quelque part. Le ciel témoigne que tu arriveras quelque part. Tu ne vas pas t'arrêter là. Ta marche continue. Tu vas surmonter les défis. Tu vas quelque part. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Est-ce que tu me comprends? Vous savez, j'ai trouvé bizarre avec Dieu. Tu désires quelque chose. Dès que tu l'obtiens, le lendemain matin, Dieu met un nouveau désir dans ton cœur. Et le nouveau désir te dit, bouge vers quelque chose de plus grand. Alléluia. 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 Come on. Dis à ton voisin, il y a quelque chose de grand qui se prépare pour moi. Dis-le encore avec foi, il y a quelque chose de grand qui se prépare pour moi. Vous savez, j'arrive et j'ai un problème avec le diable. Pourquoi est-ce que moi qui n'ai même pas pensé me créer, je vais essayer de le résoudre moi-même? Par mes propres forces. Je n'ai pas demandé à Dieu de me créer. Il a pensé comme il a voulu. Il m'a affirmé son amour. Maintenant, j'ai un problème. Pourquoi est-ce que je pense que c'est en allant chercher les fétiches que je résous mon problème? Pourquoi est-ce que je ne m'arrête pas pour dire, Créateur, il y a un problème quelque part. Qu'est-ce que je fais? Dis-moi ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant que je suis attaqué, qu'est-ce que je fais? Maintenant que je n'ai pas à manger, qu'est-ce que je fais? Maintenant que mes enfants ne vont pas à l'école, qu'est-ce que je fais? Dis-moi ce qu'il faut faire. Vous savez, il y a des gens qui ont de belles voitures, mais qui vont chez des mécaniciens du quartier. Si tu prends ta voiture, tu viens de la sortir chez Mercedes, ou chez Jaguar, ou chez Porsche, ou chez Rolls, et tu l'amènes chez un mécanicien, dans un recoin caché d'un bobo ou de... C'est pas dedans un coin. Il va bricoler ta voiture et il va la détruire. Et même les grands constructeurs te diront, au moins pendant 3 ans, de façon gratuite, s'il y a un problème de grâce, ramène-la ici. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux de la marque qu'il a déposée et du symbole que représente sa voiture. Parce qu'il sait qu'il est dans un monde d'adversité et de compétition. Et qu'à aucun moment, il ne permettra que le nom de sa marque soit souillé. Dieu sait que dans ce monde, il y a ceux qui ont choisi le diable. Il sait que dans ce monde, il y a ceux qui ont choisi les sorciers. Il sait que dans ce monde, il y a ceux qui ont choisi l'astrologie ou la magie ou la sorcellerie. Mais ceux qui sont appelés par son nom, ceux qui croient qu'il existe. Oh my God! Quand suivions un problème quelque part, il dit stop there, arrête-toi là, tout de suite. Et nous allons envoyer les mécanos. Les anges doivent descendre à ta rescousse quand tu es dans un problème. La voix doit se faire entendre du ciel. Et attention, même s'il est en panne, ne touchez pas. Car celui-là, c'est mon fils bien-aimé sur lequel j'ai mis toute mon affection. Imaginez Jésus. Jésus arrive parce qu'il a été envoyé par le ciel. Il y a un problème. Dieu a jugé utile d'envoyer le mécano en chef. Le seul capable, parce que tu es unique, de régler le problème que tu as en toi. Et pour le régler, il fallait qu'il descende pour prendre ta propre forme. Il envoie. Et quand Jésus arrive, Jésus ne naît pas dans un 5 étoiles. Il naît dans une famille pauvre. Dieu donne le temps à Jésus d'expérimenter tout ce que tu expérimentes sur la terre afin de connaître exactement quels sont les problèmes que tu peux avoir avant de tenter d'aller les résoudre. Pourquoi? Tu es tellement spécial qu'il a pris 30 ans pour former le spécialiste. Il faut qu'il comprenne les notions de l'homme et ce qu'il y a dans son cœur. Et Jésus arrivant au moment où il dit, je connais l'homme. Et je connais ce qui est en lui. Pourquoi il le connaît? Il a étudié l'homme. Parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aller dans le temple pour lire la Bible. Parce que lui-même, il est la Bible. Mais si Jésus a lu la Bible, ça veut dire que c'était la dimension humaine de Jésus qui allait à la quête de ce que la parole de Dieu déclare au sujet de l'homme. Jésus a jugé utile d'aller lire le manuel de la créature pour bien comprendre. Quel peut être le problème à régler? Et un jour, quand il sent qu'il est prêt, il arrive dans le temple avec beaucoup d'assurance. Et quand il entre, il trouve le rouleau de la loi qui était là, il le prend, il le délie et il tombe exactement sur la mission à accomplir. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Dieu m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il annonce là quelque chose de grand. La mission, le mandat que Dieu lui a confié. Mais à partir de ce moment, la tâche de Jésus ne sera pas simplement aisée. Ce ne sera pas une tâche facile. Il fait 3 ans de ministère plein. Et à la fin de son ministère, quelque chose d'étrange va se produire. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Pour régler le problème de l'homme, il devait aller à la croix. Et donc, on a arrêté Jésus l'accusant. Quand on amène Jésus, on accuse Jésus, hein, on le méprise d'abord, on l'insulte, on le bat, on crache sur lui et on force Jésus à porter sa croix au point où à un certain moment, il trébuche car le poids de la croix était lourd. Vous savez, je vais vous dire une chose. Certes, tu es de Dieu. Mais si tu veux bien comprendre ce qui t'arrive, il faut comprendre ce qui est arrivé à Jésus. Même si tu es Dieu, sur terre, il y a des cycles et des saisons dans lesquelles tu passeras. Tu ne peux pas les éviter. Parce que le premier jour, la première chose, c'est que la lumière est arrivée pour séparer la lumière avec les ténèbres. Mais les ténèbres étaient là. Ça veut dire que l'adversité, la nuit, tu ne peux pas échapper. Vous savez, un jour, tu feras un tour toi-même en enfer. Tu seras obligé de passer par là. Tous les hommes que Dieu a élevés à une certaine dimension sont tous passés un jour en enfer. Quand je parle de l'enfer, je parle de l'épreuve. Je ne sais pas si tu es arrivé un jour d'être dans l'épreuve au point où quand tu lèves la tête, tu as l'impression que le ciel même t'a oublié. Et que Dieu ne t'a jamais connu. Tu te regardes, tu ne peux même pas prier. On dit non, prie. Le pasteur ne peut pas comprendre ce que tu traverses. Il dit non, il faut simplement prier. Non, il faut simplement rendre grâce à Dieu. Même rendre grâce à Dieu, tu n'as plus de mots. Tu es tenu captif. Et souvent même, il t'arrive d'avoir envie de te suicider. Mais il faut que ça s'arrête là. Mais au fond de toi, tu entends une voix qui te dit, persévère, prends courage, ça va aller. Tu ne lis même plus ta Bible. Tu ne pries plus. Tu arrives à l'église, on chante. Tu lèves les mains, mais tu es loin. Il y a quelque chose qui se passe. Tu traverses une bataille et souvent même ta propre femme ne te comprend pas. Et il peut même arriver que ta propre femme dans l'épreuve se tient du côté de ceux qui t'attaquent. Quand l'épreuve arrive, quand l'adversité arrive, Jésus lui-même, 100% homme, 100% Dieu, il est tenu, il va à la croix après être maltraité. Mais sur la croix, les gens l'insultent, les gens le battent de verge, et on crie sur lui, et au niveau de la croix, il va dire, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ça veut dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après, il va rendre l'âme. Et quand il rendra l'âme, le voile du temple va se déchirer de haut en bas. Il venait là de verser le sang qui était indispensable à la restauration de l'homme et qui était le symbole de la preuve de l'amour que Dieu a eu pour toi. Mais il a souffert. Homme frère, si tu aimes et que tu ne souffres pas pour la personne que tu aimes, tu n'as pas encore aimé. Le véritable amour te pousse à la souffrance. Il y a des choses que tu endures à cause de ce que tu aimes. Tu aimes Dieu et que tu n'as pas souffert pour Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Ton amour n'est pas encore arrivé à la dimension de l'amour. Parce qu'un jour, ça va te pousser à la souffrance. Où tu vas regarder le monde. Et toi-même dans ton âme, tu seras abattu. Comme une sœur me disait, ils te moquent de moi. Ils disent que mon Dieu, c'est un faux Dieu. Ils disent, et vous savez, quand tu travailles les situations où même le monde commence à dire, mais où est ton Dieu? Où est-il? Pourquoi est-ce qu'il t'abandonne? Si tu venais à moi, j'allais construire une maison pour toi. J'allais t'acheter une voiture. Quand on se met à attaquer ton Dieu, ça veut dire que tu n'es plus loin. Je te dis la vérité, tu n'es plus loin. Parce que quand tu vois l'adversité monter au point où la moquerie quitte de toi pour aller sur Dieu, c'est un signe que la bataille n'est plus à toi. Mais il sert Dieu. Mais regardez comment il est. C'est un serviteur de Dieu. Mais il est à pied. Regardez sa maison. Regardez, il n'a même pas de voiture. Mais celle-là, elle dit qu'elle sert Dieu. Et tes camarades, le jour de la saison de pluie, dans les nouvelles RAV4, les RAV4 du pouvoir, elles passent à côté de ta paf, et puis elles t'éclaboussent un tout petit peu. Tu vas à l'église avec ta Bible. Et elle commence à dire, là voilà, elle dit qu'elle est chrétienne. Oh, vraiment. Mais on les blague à l'église, on les blague. Quand tu arrives là, ça veut dire que tu n'es plus loin de ce que Dieu va faire. Est-ce que tu me comprends? Et donc, on a pris Jésus et on l'a amené, après l'avoir crucifié, on amène Jésus en tombe. Dans la tombe, on le ferme dans la grotte. Et puis, quand il y arrive, parce qu'il fallait que lui-même, il fasse un tour en enfer. Le premier jour, l'enfer est entré en pleine fête parce que Jésus a été captif. Tout le monde danse. Satan, les démons. On a tué le roi. Oh oui, on a tué le roi. Oh, on a tué. Et tout le monde danse. Deuxième jour, il y a la fête. Tout le monde danse. Mais vous savez, il y a une chose que j'aime avec Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, regarde ta montre et attends. Même si tu ne peux rien faire, attends simplement. Parce qu'un moment arrive où Dieu ne te demandera pas de faire quelque chose. Il va dire, maintenant, c'est mon heure. Quand le troisième jour arrive, rien ne peut stopper cette situation. Dieu décide d'entrer en action. Parce qu'il y a un troisième jour où l'Éternel intervient pour toi. Est-ce que vous me comprenez? Et il y a un troisième jour. Et le troisième jour dans la tombe, la puissance de Dieu est descendue. Tandis que Satan était captif, paf! Hé, Satan dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les démons courent, ils regardent, oh maître, le prisonnier bouge encore. Quoi? Il bouge encore? Passez-moi la lance. Quand il entre dans la salle, Et il était trop loin d'imaginer que c'était l'heure de Dieu. L'heure où Dieu avait décidé de changer les choses. Il entre dans la salle. Alors, Jésus se lève dans sa gloire et sa puissance. Et il regarde Satan. Satan tombe à genoux. Les yeux de Dieu juste deviennent comme un éclair. Satan commence à trembler. Il dit, il n'y a pas de problème. Je ne te ferai rien. Donne-moi d'abord les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés du royaume. Donne-moi les clés. Et quand il donne les clés, il y a un trousseau. Dans ce trousseau, on a marqué mon nom juste en bas de celui d'Abraham. Et ce trousseau, il y a la clé qui ouvre le trésor de la prospérité. La clé de la guérison. La clé de l'élévation. La clé de la paix. La clé de la joie. La clé du bonheur. Il prend le trousseau. Et Jésus arrive. Quand il revient vers l'homme, il dit, je vous donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel. En quelque sorte, à n'importe quel moment, quand vous aurez besoin du témoignage du ciel, prenez juste le trousseau et ouvrez la clé. Ouvrez le trésor. Dès que vous le faites, le ciel attestera que vous ne l'avez pas eu par hasard. Le royaume vous a été donné. Vous l'avez entre vos mains. En quelque sorte, tu peux, par ta foi et ta puissance, par la puissance de ta foi, amener le ciel à se tenir pour toi tous les jours de ta vie. Tout dépend de la résolution de ton cœur et des décisions que tu prends dans ton âme. Parce que Dieu a dit, je te donne les clés du séjour des cieux. Est-ce que tu crois que le Seigneur t'a donné les clés? Est-ce que tu crois que tu as les clés? Alors lève ta main droite et répète après moi, Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que tu m'as donné les clés du royaume des cieux. Je crois, Seigneur, que même au milieu de l'épreuve, au milieu de l'adversité, tu es toujours avec moi pour me soutenir. Merci Seigneur, car tu as payé le prix pour moi à la croix du calvaire. Le sang de Jésus s'est versé et tu as dit dans ta parole, il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Jésus-Christ, car l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Les ordonnances éternelles qui me condamnaient et qui subsistaient contre moi ont été détruites par ta puissance exceptionnelle. Merci Seigneur pour ta victoire dans ma vie. Si moi vous donner ce témoignage, je vais prier pour toi. Il y a une sœur dans l'église qui est venue me voir cette semaine et elle m'a dit, j'avais un problème urgent, un problème sérieux avec quelqu'un. Et là, nous sommes allés au tribunal et après, quand j'ai quitté le tribunal, je suis rentré chez moi, j'ai senti que j'étais en train de mourir. Et elle m'a dit, pasteur, je ne pouvais pas t'appeler, il se faisait tard. Et donc, il y a un pasteur que j'ai appelé. Et il a essayé de prier pour moi, mais la situation n'a pas changé. Je savais que je mourrais, ma voix a changé. Et au fond de moi, je savais que j'étais déjà... Tout le monde autour de moi savait que c'était terminé. Et un moment, au fond de moi, une voix m'a dit, souviens-toi de Colossiens 2, 14 à 15. Et rappelle-toi de l'enseignement que tu as reçu. La sœur s'est levée et elle a dit, Satan, écoute-moi bien. Je sais que tu veux t'éteindre sur quelque chose pour t'attaquer à moi, mais je veux te dire que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistaient contre moi. Il les a détruits à la croix. Alors je me tiens devant ton trône, devant le trône de Dieu, et j'annonce que toutes les planifications de Satan contre moi sont sans effet. Je décrète qu'à partir de cet instant, je suis libre, affranchi, et que toutes les armes de Satan contre ma vie ne m'atteindront pas. Et elle m'a dit, au même moment, après la prière, la puissance de l'oppression, l'ange de la mort qui l'attaquait, s'est retiré d'elle, et la vie est revenue dans ses membres. Et j'ai été extraordinairement béni par ce témoignage. Pourquoi? Parce que si tu savais, si simplement tu savais que Jésus en mourant sur la croix t'a donné les clés du royaume des cieux et que le témoignage de Dieu du ciel, tu peux l'entendre à n'importe quel moment quand tu te tiens sur ce que Dieu a fait, alors tu ne laisserais plus le soin à Satan de malmener ton existence. D'autres personnes disent, oh Jésus, viens à mon secours, fais quelque chose pour moi. Et Jésus dit, s'il te plaît, fais quelque chose pour le royaume. Je t'ai donné les clés, je ne peux plus rien faire. Non, c'est toi qui dois faire, c'est plus moi. C'est toi qui dois agir, c'est plus moi. Comme une autre femme qui dans son songe, elle est venue, le diable était en train de l'attaquer. Et elle commence à crier, Jésus au secours, Jésus au secours. Et tout de suite, elle a vu Jésus qui est apparu entre elle et le démon. Elle dit, Alléluia, Jésus est arrivé. Et puis elle voit Jésus qui recule. Elle dit, non Jésus, le voilà. Comme si Jésus n'avait pas vu. Et Jésus recule vers elle. Elle dit, Jésus, s'il te plaît, le voilà là-bas devant. Jésus ne fait que reculer. Elle a commencé à fuir. Elle dit, mais les pasteurs nous ont menti à l'église. Même Jésus a peur des démons. Et parce que Jésus fuyait, et en certain moment, elle a cogné le pied sur un caillou et elle est tombée. Et quand elle est tombée, Jésus est tombé sur elle. Et puis elle regarde à gauche, elle ne voit plus. Elle regarde à droite, elle ne voit plus. Et elle fait ça, elle le voit en lui. Et elle voit le doigt de Jésus qui fait ça. Vas-y, vas-y. Elle dit Jésus, Jésus dit, vas-y toi-même, vas-y. Et puis elle voit Jésus et le diable s'arrête. Elle pose un pied, elle voit qu'elle le transporte. Elle pose deux, elle transporte Jésus. Et puis le diable ne fait que reculer. Et elle a compris que c'était en elle le pouvoir. Et que le diable ne pouvait plus rien. Et elle a commencé à poursuivre Satan. Et Satan a commencé à fuir. Pourquoi? Parce que la grande pouvoir est en nous. Alléluia. Si tu pouvais savoir que Dieu t'a donné les clés. Et que maintenant, ce matin, tu peux créer l'attraction du témoignage du ciel dans ta vie. Alors, les choses deviendront différentes.